Pronto? Pronto. Et oui, c'est bien Cédric Canal en ce lundi 4 mars qui vous accueille dans ce nouvel épisode de Pronto Calcio, le 68e de la saison 2. Et nous allons parler de la 27e journée de Serie A juste après le générique.
Sai che ti cercherò in tutta Milano, che ti stringerò forte la mano. Nei locali alla moda, anche sotto la coda del diavolo, credimi. Solo con te io sospiro tutta la notte.
Et l'équipe de Ponto Calcio qui est composée aujourd'hui de Nicolas Wagner. Salut Nicolas.
Ciao à tutti, bonjour Cédric.
Alors, est-ce que tu vas mieux, Nicolas, déjà? Parce que tu étais absent avec un mot du médecin la semaine dernière, donc voilà, est-ce que tu t'es repris?
Ça va un peu mieux, c'est pas encore la grande forme, mais je suis sur la voie de la guérison totale.
Voilà, est-ce que c'est un petit peu comme l'Oudinese? Bon, sur la voie de la guérison, on le souhaite.
Ah, j'espère être en meilleure forme que l'Oudinese pour le coup.
C'est vrai qu'entre Udinese et Le Havre, week-end compliqué encore pour toi, mais bon. Et puis, notre invité, nous avons le plaisir d'accueillir le journaliste Antoine Morin. Salut Antoine.
Bonjour messieurs.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Antoine. Alors, tu es journaliste, tu es commentateur sportif spécialisé dans le football. Tu commentes notamment la Ligue 1, tu commentes de la Première Ligue, tu commentes de la Serie A aussi pour le groupe Sky Suisse. C'est bien ça?
Oui, exactement. C'est Sky Sport qui partage les droits en Suisse avec Blue Sport. Et du coup, voilà, j'ai la chance de commenter chaque week-end les affiches de Serie A pour la télévision suisse.
Voilà, en compagnie de Thierry Cross, qui est aussi bien connu, bien sûr, par les passionnés de football italien. Alors, eh bien, Antoine, on va du coup en profiter d'avoir ton expertise. On va commencer tout de suite par l'affiche. Tu l'as commenté d'ailleurs ce dimanche soir. C'était le match attendu de cette 27e journée entre Naples et la Juventus. Napoli-Juve au Maradona. À chaque fois, c'est un match en sold out avec pas mal d'ambiance, puisque l'on sait l'antagonisme qu'il y a entre les tifosi des deux équipes et aussi entre les deux clubs. Match qui a été vivant. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à un tel spectacle, puisque souvent, le dimanche soir avec la Juve, on a plutôt tendance à s'ennuyer. Ce n'était pas le cas ce dimanche soir. Succès 2-1 du Napoli. Antoine, je vais commencer avec toi, justement, avec ce succès. Kvaratskhelia, donc, qui a marqué en fin de première période. Chiesa a égalisé à la 80e minute d'une belle frappe du droit. Le but de Kvara aussi est très beau avec une reprise de volée. Et puis, en toute fin de match, un pénalty arrêté par Chesney, raté par Osimhen aussi, on peut dire, s'il est quand même mal tiré. Et Raspadori qui le reprend et qui donc catapulte au fond des filets, qui permet au Napoli de s'imposer 2-1. Succès important pour les Napolitains dans l'optique de l'Europe. Mais voilà, est-ce que c'est un succès mérité pour toi, Antoine, ce succès 2-1?
Mérité, je trouve que la Juve a vraiment fait un très bon match également. Je suis comme toi, j'ai été très agréablement surpris par la qualité de ce match-là. C'est vrai qu'on ne savait pas trop où situer le Napoli avec le nouveau changement d'entraîneur depuis 3 matchs. Alors, ils avaient cartonné Sassuolo, mais vu l'état actuel de Sassuolo, ce n'était pas une vraie indication. Un match nul n'aurait pas été scandaleux pour moi parce que la Juve a vraiment eu beaucoup d'occasions et a raté beaucoup d'occasions. Mais je trouve que la victoire récompense quand même les intentions retrouvées d'un Napoli qui, sans être vraiment à la hauteur de ce qu'il a été la saison dernière, m'a semblé être sur la bonne voie pour retrouver un niveau de jeu plus conforme aux attentes qu'on pouvait avoir sur les champions en titre.
C'est vrai que sur ce point, on a retrouvé un Napoli, alors Calzona, qui est l'ancien assistant, on le rappelle, de Sarri pendant plusieurs années, dont ces années au Napoli. Il a aussi fait la première saison avec Spalletti. Et on a retrouvé ce 4-3-3 très Napoli de ces dernières années, avec un Lobotka qui a fait un beau match pour moi. On l'a retrouvé aussi un Lobotka, alors peut-être pas rayonnant, comme le disait justement Antoine, mais malgré tout de bonne qualité. Kvara également, qui a donc mis 3 buts en l'espace de 4 jours. Osimhen qui a raté un penalty, mais qui avait marqué 5 buts lors des 3 derniers matchs. Nicolas, là-dessus, c'est vrai que voilà, c'est un Napoli encore malade, mais on sent malgré tout un Napoli qui retrouve, on va dire, certaines bases, et surtout dans le jeu, parce qu'on a vu une équipe qui voulait repartir de l'arrière, qui a perdu beaucoup de ballons d'ailleurs dans ses 30-40 mètres et qui a offert des occasions à la Juve. Vlahovic qui rate 4 occasions, qui fait un poteau dans ce match-là, mais c'est souvent des occasions qui sont offertes par le Napoli qui, en voulant jouer, en voulant faire le Napoli qu'on connaît, parfois c'est quand même mis en difficulté.
Oui, c'est un Napoli qui est encore convalescent, mais comme l'a dit Antoine, c'est un Napoli qui essaie de repartir sur les bases des années précédentes, notamment l'année dernière avec Spalletti. Et franchement, hier soir, on a vu une équipe de Naples qui avait vraiment envie d'offrir la victoire à son public. Et effectivement, comme tu le dis, ils ont été un peu châtiés parfois en voulant ressortir le ballon proprement de derrière, mais comme techniquement, c'était pas toujours très propre. T'as offert des cartouches à la Juve. Pour le coup, j'ai souvent été sévère avec le Mister Allegri, mais là, hier soir, on a vu que c'était une équipe turinoise qui ne calculait pas forcément, qui rendait coup pour coup aux attaques de Naples, et ils n'ont pas démérité. Et c'est vrai que même si, encore une fois, ça a failli être arraché au forceps, mais le match nul me semblait peut-être être un résultat plus favorable sur l'ensemble du match.
Alors Antoine, j'ai une question pour toi sur Allegri, qui fait souvent débat. Alors personnellement, j'ai plutôt bien aimé sa composition d'équipe ce dimanche soir. Alors, il était un petit peu obligé au milieu de terrain, puisque McKennie et Rabiot sont blessés. Mais il a choisi Alcaraz et Miretti, qui sont deux joueurs qui sont plutôt offensifs. D'ailleurs, Miretti, moi personnellement, j'ai bien aimé ce dimanche soir. Je trouvais qu'il, surtout sa première période, vraiment de qualité. Mais voilà, on a vu une équipe avec Ealing aussi, Ealing Junior, première titularisation de la saison et qui a été plutôt actif dans son couloir. Donc voilà, là-dessus. Et un petit mot aussi sur Nondje qui est rentré à la 75e, qui provoque le penalty et qui sort tout de suite après. Ça fait pas mal parler aussi quand même en Italie parce que c'est un jeune joueur. Faire ça à un gamin qui n'a pas encore 19 ans, certains jugent qu'Allegri l'a un petit peu brûlé en faisant ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de la gestion d'Allegri, que ce soit sur la composition d'équipe ou sur les remplacements?
Ouais, sur la composition d'équipe, moi j'ai trouvé ça effectivement intéressant compte tenu des absences de Rabiot et McKennie. C'est vrai que le choix de passer Cambiaso de gauche à droite était sûrement motivé par le fait que bah, il y avait Kvaratskhelia qui avait été très bon contre Sassuolo et donc il fallait essayer de contenir le Géorgien. Et c'est d'ailleurs ce que Cambiaso a plutôt bien fait, notamment en première période, même si Ibarra a fini par marquer, mais on ne peut pas imputer ce but-là à une mauvaise défense de Cambiaso. Après, sur la gestion du jeune Enongé, je ne sais pas si c'est vraiment. Il le sort parce qu'il a provoqué le penalty et le jaune, du coup, derrière, qui peut le mettre en danger. Ou si, avec le but qu'il concède, il est obligé de revoir ses plans pour la fin de match pour essayer d'aller arracher la victoire. Il fait rentrer deux joueurs. Il finit avec un système qui est un peu hybride, parce qu'ils sont plus à 4 derrière plutôt qu'à 3 comme ils étaient au début. Donc, c'est vrai que c'est cruel pour le jeune, parce que ça donne vraiment le sentiment que c'est une sanction après le penalty. Mais il faudrait avoir l'explication d'Allegri, qu'il ne donnera jamais, on connaît le bonhomme, pour savoir si c'est vraiment ça. Parce que le malheureux Joseph Nondje, enfin voilà, il cause le penalty, mais c'est par maladresse plus que par vraiment une grosse erreur. Il a pas de chance qu'Osimhen va plus vite que lui, pas totalement illogique. Mais voilà, j'ai trouvé que finalement les choix d'Allegri dans ce match étaient intéressants. Alors maintenant, les mauvaises langues vont dire que pour une fois qu'il a joué offensif, qu'il a perdu, donc ça va pas l'inciter à le refaire. C'est ça le problème pour la Juve, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes à tirer de ce match pour la Juve, pour la suite, parce que c'était une belle Juve, j'ai trouvé hier soir, qui a malheureusement pour elle manqué d'efficacité, notamment Vlahovic, qui n'est pas conforme à ce que Vlahovic nous a offert depuis janvier.
Oui, Vlahovic, 9 buts en 8 matchs, effectivement, qui portait un petit peu la Juve offensivement ces dernières semaines et qui, là, bien, rate 4 occasions assez importantes sur ce même match. Vlahovic, il sera suspendu d'ailleurs dimanche prochain contre l'Atalanta puisqu'il a pris un carton jaune. Mais c'est vrai que la Juve, Nicolas, est clairement en arrêt. 5 points en 6 matchs, 6 buts marqués dans cette série-là et 9 buts encaissés. 6 buts encaissés lors des 3 derniers matchs, à chaque fois, la Juve qui prend 2 buts. Alors que la Juve venait d'une série de 16 matchs avec 13 victoires et 3 nuls, qui a pris 42 points, quand même, qui était dans un parcours de champion, et là qui est quasiment à l'arrêt depuis maintenant un bon mois. C'est quoi, selon toi, Nicolas? Est-ce que c'est le karma, on va dire, quand on dit que tout s'équilibre dans le football, pour reprendre un cliché? Est-ce que c'est ça? Est-ce que la Juve a surperformé en quelque sorte et maintenant sous-performe un petit peu, mais ça rééquilibre le bilan? Ou c'est plus profond que ça pour toi, cette baisse de régime?
Je pense surtout c'est qu'il y a pas mal de matchs lors de cette saison que la Juve a gagné et qui n'étaient pas forcément mérités. Alors, je sais bien que le concept du mérite dans le sport est une notion assez vague, mais pour le coup, il y a vraiment des matchs qui étaient tirés par les cheveux et je pense notamment à la victoire avec le but de Rougani à la 90 plus 2, 3 ou 5, je me rappelle plus, mais dans les arrêts de jeu, qui était vraiment très belle pour la Juve, où pour le coup, là, le match nul aurait peut-être été plus mérité sur ce match-là. Et je pense que ouais, il y a un problème actuellement, c'est de stabilité, de solidité défensive. À partir du moment où cette Juve n'arrive pas à être bien calée défensivement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit très bien que dans l'animation offensive, ils ont plus de mal, même si le mois de janvier a été un peu en trompe-l'œil avec la réussite de Vlahovic, mais quand on voit que, comme hier soir, Vlahovic est en difficulté, rate ses occasions, eh ben, la Juve derrière ne peut plus s'asseoir sur sa stabilité défensive et concède des occasions, concède des buts, et là, à partir de ce moment-là, c'est plus compliqué.
Dernier mot sur cette rencontre, sur le Napoli qui a donc pris 6 points en l'espace de 4 jours, là, entre le match en retard contre Sassuolo, victoire 6-1 et donc ce succès 2-1 contre la Juve. 7e place pour le Napoli qui revient à 4 longueurs de la Roma, 5e, à 8 points tout de même de Bologne, 4e. Bon, il y a ce débat, la 5e place qui pourrait être synonyme de Ligue des Champions pour l'Italie. Je vous invite à écouter notre dernier podcast avec Andrea Chasi où on parle des chances européennes des clubs italiens de cette course à la 5e place en Ligue des Champions pour l'Italie. Mais selon toi, Antoine, vu ce que le Napoli montre depuis 4 matchs et l'arrivée de Calzona, puisqu'on rappelle il y a aussi la Ligue des Champions, avec le match nul 1-1 contre le Barça, le match retour ce sera d'ailleurs dans 10 jours à Barcelone. Selon toi, est-ce que le Napoli va finir cette saison dans les places européennes? Et si oui, plutôt Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League?
Alors, je pense que oui, s'ils continuent sur leur lancée, si Calzona a vraiment réussi à nettoyer les têtes de Lobotka en lui redonnant un rôle clé au milieu, et ça a été le cas notamment hier, s'il a pu nettoyer les têtes également d'Osimhen et Kvara, qui ont vraiment eu des difficultés en début de saison avec Garcia puis Mazzarri, on risque de retrouver un Napoli qui ressemblera plus à celui de la saison dernière et qui devrait pouvoir finir européen. Mais le bémol, c'est que le Napoli n'a pas de marge parce qu'il a du retard sur deux belles équipes du moment, que sont Bologne et la Roma. Donc, j'ai presque envie de dire, ils ont plus totalement leur destin entre leurs pieds, les Napolitains. Parce que si la Roma et Bologne continuent sur leur lancée, bah, ils auront beau gagner leur match, ils ne pourront pas repasser devant. Donc, c'est à eux de continuer sur cette lancée-là en espérant aussi des faux pas des deux autres.
C'est Salemakers in appoggio su Zirze. Ndoye rientra per calciare. Al volo a colpire da fuori Ferguson. Completa la rimonta. Il Bologna è 1-2 adesso a Bergamo.
Eh bien justement, transition toute trouvée, on va parler de la course à la 4e place, puisqu'on a une belle affiche ce dimanche entre l'Atalanta et Bologne, donc, et le succès de Bologne, 2 buts à 1, l'équipe de Thiago Motta qui a renversé la rencontre, première période plutôt dominée par l'Atalanta, et Lookman, premier but en 2024 qui donne l'avantage donc au Bergamasque, et puis Bologne en seconde période, changement avec deux changements à la mi-temps pour Thiago Motta, qui fait notamment rentrer Salemakers, un petit changement tactique qui a porté ses fruits, puisque le Belge est impliqué sur les deux buts, provoque un pénalty transformé par Zirkzee, et puis le début de l'action du deuxième but et cette belle frappe depuis l'extérieur de la surface de Ferguson. Zirkzee Ferguson, un petit peu les deux joueurs symboles de ce Bologne, et Bologne qui ne s'arrête pas à 6e victoire de rang. Nicolas, voilà, c'est assez impressionnant. On les avait sentis un petit peu dans le dur en décembre, les hommes de Thiago Motta, et puis ils ont réussi à repartir là depuis le début d'année. Ça va très très vite. Et du coup, ils se retrouvent seul 4e avec 4 points d'avance sur la Roma.
Oui, ils ont retrouvé les ingrédients qui avaient fait leur force lors de la première partie de saison. Là, on avait eu le débat il n'y a pas si longtemps que ça avec Raphaël pour savoir qui méritait d'être sur la 4e place entre l'Atalanta et Bologne. Et on avait dit que la confrontation directe entre les deux équipes allait certainement donner une indication. Je pense que Bologne a répondu positivement à ce choc et a montré que c'était une équipe sur laquelle il allait falloir compter jusqu'à la fin de la saison. Parce que, il y avait eu une baisse de régime, comme tu l'as dit, mais depuis quelques temps, Thiago Motta a retrouvé les ingrédients et surtout les joueurs, notamment Zirkzee et Ferguson, qu'on avait vu buteurs hier, se sont haussé leur niveau de jeu et ont montré qu'ils avaient les capacités pour pouvoir aller décrocher cette quatrième place.
Alors Antoine, toi qui es supporter, suiveur du Paris Saint-Germain, Thiago Motta, forcément, c'est un nom qui te parle, j'imagine, et tu dois suivre ses pas en tant qu'entraîneur avec attention. Lui qui avait commencé d'ailleurs son parcours avec les jeunes du Paris Saint-Germain avant de revenir en Italie pour entraîner le Genoa, la Spezia et maintenant Bologne. Voilà, c'est un entraîneur qui est vraiment en évolution, qui est devenu aussi plus pragmatique par rapport à ses débuts et qui a des résultats vraiment surprenants parce que Bologne, juste pour vous donner quelques chiffres, mais 6 victoires de rang, ça leur était pas arrivé depuis 57 ans. Et avoir 14 victoires après 27 matchs, ça leur était pas arrivé depuis la saison 1965-1966, où ils avaient terminé deuxième. Donc on est sur la période où Bologne dominait le football italien, en tout cas faisait partie des équipes qui remportaient les titres dans les années 60. Donc voilà, c'est tout de même assez impressionnant.
Oui, c'est très fort, c'est ce que fait Thiago Motta, parce que déjà l'année dernière, quand il les reprend, il avait montré de belles choses, mais je trouve que cette année, il y a encore une évolution. Quand il a passé ses diplômes, il a impressionné tout le monde. Thiago Motta, il avait vraiment le mémoire qu'il avait rendu pour obtenir son diplôme d'entraîneur, avait vraiment impressionné beaucoup de formateurs et beaucoup d'entraîneurs. Et c'est vraiment bien de voir qu'il transforme l'essai, j'ai envie de dire, en réussissant. Dans la stabilité, parce qu'il a choisi de rester à Bologne une deuxième saison et il a les résultats qui montrent que voilà, c'est vraiment un jeune entraîneur avec promis un grand avenir. Et je trouve que son équipe est vraiment cohérente et dans cette course à la quatrième place, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils gagnent les confrontations directes. Ils ont battu l'Atalanta, ils ont battu la Fiorentina il n'y a pas longtemps, ils ont battu la Lazio, ils avaient tenu en échec l'Inter, parce que quand on voit le parcours de l'Inter en ce moment, faire match nul avec l'Inter, c'est déjà un résultat en soi. Donc c'est vraiment une équipe qui répond présent dans les rendez-vous directs. Donc c'est vraiment intéressant et ils sont en pleine confiance. Et je pense que la perspective, effectivement, de pouvoir être européen, voire en Ligue des Champions, est un vrai moteur pour lui et ses hommes, à voir s'ils vont bien gérer, du coup, cette pression un peu inédite sur les 11 dernières journées, mais c'est vraiment très très intéressant de suivre le Bologne de Thiago Motta et j'ai déjà hâte de les voir samedi contre l'Inter parce que j'aurai la chance de commenter ce match-là et je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont faire contre l'équipe de Simone Inzaghi.
Le raison de le signaler sera un match très très intéressant à suivre ce samedi à 18h, puisque Bologne donc qui est sur aussi un succès de rang. L'Inter qui a un petit peu pris l'habitude d'arrêter les séries positives des équipes ces dernières semaines, puisque la Juve avait connu sa première défaite contre l'Inter après une série de 13 victoires et 3 nuls. La Roma de De Rossi, on va parler dans quelques instants, a connu sa seule défaite contre l'Inter. Et puis l'Atalanta aussi, qui après 6 victoires et 1 nul s'est incliné en milieu de semaine 4-0 contre l'Inter. Alors l'Atalanta, un mot aussi, Nicolas, sur eux. C'est pareil, ils avaient très très bien commencé l'année en enchaînant des beaux succès, souvent contre les équipes de la seconde partie de tableau. Et puis là, un point en trois matchs entre Milan, Inter et Bologne. Et surtout l'Atalanta, là, qui a l'Europa League qui recommence, puisqu'il y a le Sporting Lisbonne dès ce mercredi. Dimanche ensuite, là, il y a la Juve à affronter. Voilà, il y a un calendrier très très compliqué pour Gasperini. Et on sent une équipe qui a un petit peu perdu des repères. Et surtout, offensivement, il joue sans numéro 9, puisque Scamacca déçoit. Muriel est parti. Donc, c'est De Ketelaere qui joue dans un rôle de faux neuf. Il y a souvent Miranchuk ou Lookman aussi, mais ce n'est pas vraiment des attaquants de pointe non plus. Donc, on sent une équipe qui, je sais pas, qui est un petit peu en difficulté aussi dans le jeu, non?
Ouais, alors après, je pense qu'ils sont en difficulté parce que le niveau s'est un petit peu augmenté. Et comme tu as très bien souligné, c'est que le calendrier est compliqué en ce moment pour les hommes de Gasperini. C'était plus facile de rencontrer les équipes de seconde moitié de tableau que les prétendants à la Champions ou prétendants au titre pour l'Inter. On a vu le résultat que ça a donné d'ailleurs lors du match en retard. C'est un petit peu compliqué. Après, je pense qu'ils vont rester dans la course. Tout simplement parce que je pense pas que cet Atalanta-là va être capable de passer l'écueil du Sporting qui joue très bien et qui a un attaquant qui est dans une forme redoutable, c'est le Suédois Gyökeres. Donc certainement si l'Atalanta est délestée de l'Europe, ça sera peut-être plus facile pour eux. Mais ouais, effectivement, ils sont dans le dur en ce moment et va falloir être costaud parce que le calendrier, comme tu le disais, va être encore assez important avec des confrontations contre des équipes de première partie de tableau et surtout du très haut niveau.
C'est une course à trois qui semble se dégager pour la quatrième place, puisque Bologne a 51 points, la Roma 47 et l'Atalanta 46. Oui, je viens de citer l'autre équipe, c'est la Roma, bien sûr, qui est dans une très grande forme depuis l'arrivée de Daniele De Rossi sur le banc. 6 victoires et une défaite, plus une qualification pour les huitièmes de finale d'Europa League. Ce sera contre le Brighton de Zerbi. Ça fait partie des chocs qu'on attend avec impatience de cette semaine européenne. Antoine, lorsque l'on voit cette Roma-là qui joue bien avec un Dybala en grande forme, puisque c'est 7 buts et une passe lors de ses 6 dernières rencontres jouées. Donc voilà, depuis l'arrivée de De Rossi, il vole. Aussi Dybala, alors c'est facile de dire maintenant, mais Mourinho, il est cramé, comme on dit, les bolitos, enfin tout ce qu'on veut. C'est sûrement surtout une fin de cycle, mais quand on voit Dybala ou même Pellegrini renaître comme cela dans le 4-3-3 ou le 4-3-2-1 de De Rossi, ça fait plaisir.
Oui, complètement. On retrouve une Roma joueuse et une Roma, je dirais, qui exploite mieux les qualités offensives de ses joueurs. Et moi, c'était le reproche que je faisais à Mourinho, même s'il a eu des résultats, et notamment sur la scène européenne à la Roma. Il y avait toujours ce sentiment que il n'exploitait pas le potentiel offensif qu'il pouvait y avoir dans cette équipe-là. C'était un reproche qui lui a été fait à Tottenham, c'était un reproche qui lui a été fait à Manchester United. C'est un reproche récurrent, finalement, je vais dire, de la deuxième partie de carrière de Mourinho, dont je situerai le début à son deuxième passage à Chelsea. Et donc, effectivement, voilà, De Rossi est revenu à un 4-3-3. Alors, il a obtenu aussi au mercato de récupérer un latéral gauche pour pouvoir jouer dans une défense à 4, ce qui est quelque chose que Mourinho a souvent dit qu'il ne pouvait pas jouer dans une défense à 4, puisque Spinazzola étant pas en mesure d'enchaîner les matchs, il avait qu'une seule solution comme véritable latéral gauche, que Zalewski. Tu peux pas le faire jouer dans une défense à 4. Donc l'arrivée d'Angelino a servi aussi les plans de De Rossi. Huijsen, le Néerlandais prêté par la Juve, fait aussi beaucoup de bien derrière pour stabiliser cette défense. Et puis effectivement, bah, quand tu mets Pellegrini et Dybala dans de bonnes conditions pour jouer au football, ce sont quand même de super joueurs. Donc ça permet quand même d'avoir de beaux matchs, du football beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on a pu voir les mois précédents. Et c'est très intéressant de retrouver la Roma à ce niveau-là, avec en plus, je suis d'accord, le choc contre Brighton qui sera très très intéressant, parce que voilà, je pense que les Romains, les Diallo Rossi, ils ont pris goût aux épopées européennes avec Mourinho. Et donc je vois bien la Roma continuer sur sa lancée et essayer d'aller loin dans cette Europa League qui leur a échappé de peu la saison dernière.
Et ce week-end, donc la Roma qui s'est imposée 4-1, je ne voulais pas signaler, avec des buts de Pellegrini, Lukaku, Dybala et Paredes sur penalty. Carboni avait réduit la marque donc avec un très beau but en fin de rencontre. Mais donc voilà, donc la Roma qui pour le moment est cinquième et qui est bien remontée puisqu'elle se retrouvait pour des 8-9e places hein, au départ de Mourinho. Donc voilà la série positive qui permet donc à la Roma eh bien, de se replacer dans cette position plutôt intéressante. Torino-Fiorentina, on ne va pas y revenir, il y a eu 0-0, polémique arbitrale pour faire la transition avec Lazio-Milan qui avait ouvert cette 27e journée. Pas mal de polémiques aussi autour de ce match, Lazio qui a terminé à 8, 3 cartons rouges. Celui qui a fait le plus débat, c'est le premier de Pellegrini pour un deuxième carton jaune. Lorsqu'on regarde le règlement, le carton est logique puisqu'il il accroche, il ceinture, il plaque complètement Pulisic, sauf que lui laissait le ballon sortir puisqu'il avait l'un de ses partenaires au sol. Il pensait que l'arbitre allait soit siffler, soit enfin voilà interrompre le jeu. Et donc lorsqu'il a vu Pulisic prendre le ballon, il a ceinturé un petit peu, on va dire en réflexe, un petit peu bête en quelque sorte de la part du jeune défenseur de la Lazio. Antoine, là-dessus, sur cette rencontre que tu as commentée, que dire? Est-ce que l'arbitrage de Di Bello, comme le regretté Silvio Berlusconi, il avait 3 ans, l'avait surnommé Di Brutto, parce que Bello beau en italien, Brutto moche, donc voilà, il avait fait ce jeu de mots, mais lors d'un match entre Monza et la Roma à l'époque. Mais est-ce que l'arbitrage de Di Bello, pour toi, a vraiment conditionné cette rencontre, ou est-ce que ben, la Lazio, c'est un petit peu toute seule s'aborder?
Moi, j'estime que la Lazio s'est un peu sabordée toute seule, parce que sur cette action-là, ça va très vite entre le moment où il y a le contact avec le joueur de la Lazio qui reste au sol et le ballon qui va sortir. Je veux dire, c'est à l'appréciation de l'arbitre d'arrêter le jeu ou pas. Vu comment le joueur de la Lazio s'est relevé tout de suite, je pense qu'il n'y avait quand même pas matière à ce qu'il y ait un danger immédiat ou un joueur qui a perdu connaissance, qui pourrait inciter l'arbitre à siffler tout de suite. Voilà, Pellegrini, il voulait couvrir la sortie du ballon. À partir du moment où il voit que Pulisic veut le jouer, ben, il a qu'à la pousser en touche. Et je pense que voilà, les Lazio, ils se sont un peu sortis de leur match tout seul à cause de ça. Moi, ce que je reprocherais plutôt à Monsieur Dibello, c'est que il n'a pas vraiment bien tenu les débats en voulant. L'idée de base, c'était a priori de laisser beaucoup jouer. Donc, il n'a pas bien tenu les débats sur cet aspect-là. Et quand ça a commencé à devenir n'importe quoi, il a sorti la boîte à carton. Et le problème des arbitres, moi j'en ai parlé avec plusieurs arbitres, notamment en France, une fois que tu as ouvert la boîte à carton, tu peux plus la ressortir, tu peux plus la refermer. Parce que bah, si tu as mis un carton sur cette action-là, il faut que tu en mettes un sur celle-ci, et puis sur celle-là, et puis sur celle-là. Et du coup, on arrive avec, je crois, 11 cartons jaunes dans ce match-là. Et voilà, mais sur les trois rouges de la Lazio, les trois gestes, alors Marouzic c'était un peu plus flou parce qu'on était sur les ralentis, on n'a pas tout vu, mais les trois gestes des trois joueurs de la Lazio méritent les cartons qui leur ont été attribués. Donc malheureusement, du point de vue stricto sensu du règlement, il n'y a aucun des cartons rouges qui soit injustifié.
Après, tu as raison, c'est plus dans la pédagogie sûrement de l'arbitre où voilà, il est un petit peu parti dans cette ligne dure et il aurait même pu gracier en quelque sorte Pellegrini. Peut-être en disant, bon d'accord, je comprends, c'est vrai qu'il a voulu rester sur le règlement, et du coup c'est un petit peu parti dans tous les sens. Il y a aussi eu un but à Léao refusé pour hors-jeu de quelques centimètres du genou, et puis Okafor donc, qui en fin de match a marqué, il avait déjà marqué lors du match aller, encore un but venant du banc pour l'AC Milan, c'est un petit peu une spécialité. Nicolas, Milan donc, qui s'en sort, on va dire, de cette rencontre, mais c'est vrai que c'était assez étrange, c'était surtout le climat autour du match qui était assez pesant, et du coup on retient que les cartons rouges, surtout les deux cartons rouges à la fin, qui sont presque anecdotiques en quelque sorte, puis qui pèseront pour la Lazio, puisque ça fera des suspensions forcément pour les prochaines semaines, mais voilà, malgré tout, sur le match, Milan qui a plutôt mérité, non, malgré tout, ce succès, après... On a une bonne série, les Milanistes, puisqu'il y a, dans le contenu en tout cas, puisqu'il y avait eu le bon match nul contre l'Atalanta le week-end précédent où ils méritaient de gagner déjà.
Ouais, je vais faire attention à ce que je dis parce que je sais que je vais être attendu au tournant par Anto et Rafa si je dis trop de bêtises sur Milan. Donc j'ai revu les meilleurs moments du match puisque j'avais pas regardé ce Lazio Milan. Et effectivement, oui, Milan s'en sort bien, mais Milan a joué le match qu'il fallait. C'est vrai que l'atmosphère est devenue assez tendue et pesante à partir du moment où Pellegrini se fait sortir. Et je pense que, comme Antoine l'a très bien expliqué, à partir du moment où il a le ballon dans les pieds, si vraiment il a une crainte pour son coéquipier, comme ça à l'arbitre d'interrompre le jeu, si le jeu n'est pas interrompu, c'est à lui de sortir le ballon et il avait l'opportunité de le faire. Donc je ne pense pas que la Lazio peut se plaindre sur ce fait de jeu. Et donc oui, le Milan enchaîne, le Milan continue, le Milan est débarrassé un peu de la poisse qu'ils avaient au niveau des blessés. Donc peut quand même s'appuyer sur un effectif un peu plus étoffé et on voit que souvent la décision, comme tu l'as dit, on n'a pas, enfin j'ai pas les stats exactes en tête, mais il y a énormément de buts qui sont venus des remplaçants cette saison. Et ça montre que tout l'effectif est impliqué et que ils seront vraiment jusqu'au bout des candidats importants pour aller titiller la deuxième place.
Et s'ils reviennent à un point de la Juve, j'en profite pour sortir un petit instant une carte Intelista dans ce podcast. La Lazio, il y a 2-3 ans, avait marqué un but contre l'Inter avec Di Marco qui était au sol. Et la Lazio avait continué l'action et avait marqué. Et c'est comme ça, effectivement, c'est à l'arbitre de siffler. Donc, et puis, une autre chose, moi, alors Antoine, comme tu commentais aussi le match en direct, je ne sais pas toi, mais moi, lorsque Pellegrini a pris le premier jaune, je me suis dit devant la télé, je suis Sarri, je le sors assez rapidement. Dès le début de la seconde période, je le sors parce que c'est un joueur nerveux qui a l'habitude de prendre pas mal de cartons, qui ne se contrôle pas forcément. Et face à des joueurs comme Pulisic, ça peut déraper. Donc, tu vois, moi j'aurais appliqué un petit peu la règle Simone Inzaghi, tu prends un jaune, tu sors pour un joueur comme Pellegrini parce que je le sentais exposé à un rouge. Donc, peut-être que Sarri aussi a pas forcément bien lu la rencontre.
Oui, après, il n'a pas non plus. Il a un effectif qui est un peu à bout de souffle, Sarri. Donc, je pense qu'au niveau des choix, il est aussi un peu limité dans sa rotation d'effectifs. Mais c'est vrai qu'on a senti beaucoup de nervosité chez Pellegrini, déjà dès ce premier jaune. Et que face à un joueur comme Pulisic, qui va beaucoup dans le 1 contre 1, qui percute, qui te met en danger de faire des fautes, effectivement,
Puis
c'était
qui est un petit
risqué.
peu vicieux, malin, quoi. On va le dire aussi.
Oui, mais après, moi, enfin, encore une fois, moi, sur l'action, il y a tellement peu de laps de temps entre le contact et ce qui se passe entre Pulisic et Pellegrini. Je suis même pas sûr que Pulisic, il ait vu qu'il y avait un joueur de la Lazio au sol. Il a vu que Pellegrini protégeait la sortie du ballon. Il s'est dit, attends, vu comment il le fait, j'ai moyen de la récupérer. Si je la récupère, je vais tout seul au but. Je crois plus à cette théorie-là qu'au fait qu'il ait voulu
Ouais, non, mais bien
ne
sûr, je
pas
parlais
être fair
plus
play,
pour
mais.
l'embrouille avec Guendouzi, où c'est lui qui fait la première faute, mais l'arbitre le voit pas, et forcément,
Si.
Guendouzi
Non, je suis pas
répond comme
d'accord.
un
Non,
idiot.
je suis pas d'accord. L'arbitre, il le voit puisqu'il met jaune à Pulisic. Pulisic, il voit Guendouzi partir en contre, il fait faute. Il sait qu'il va prendre jaune, il fait faute. Il arrête l'action comme 90% des joueurs de football le font. Et c'est Guendouzi qui réagit très mal parce que la Lazio est énervée d'avoir déjà pris le rouge. Mais Pulisic, il fait une faute qui vaut jaune et il sait qu'il prend jaune et il prend jaune parce que Dybala, il arrive, il a un carton dans chaque main. Donc il était parti pour lui mettre jaune. C'est la réaction de Guendouzi qui est idiote et disproportionné et qui va pénaliser la Lazio
Complètement.
parce que là c'est rouge direct, il peut prendre deux matchs et vu ça son rendement dans le milieu de Sarri, ça va être un réel handicap pour la Lazio sur les deux prochains matchs.
Et d'ailleurs, le prochain match de la Lazio, c'est contre l'Udinese. Voilà. C'est la Pozzo League, en quelque sorte, Nicolas.
Ça
Tu vois, il y
peut
aura
nous
trois
arranger,
joueurs.
mais c'est pas dit que ça nous aide pour autant.
Matteo Serri che rischia di perderla, Svidersky la recupera lanciata da Bonazzoli, Svidersky punta all'area, Svidersky con il sinistro, in porta il primo gol in Serie A di Karol Svidersky a 12 dal 90esimo a portare in vantaggio l'Hellas Verona, è un gol pesantissimo.
On va passer justement au bas du tableau, puisqu'il y avait pas mal de confrontations directes. Nicolas, on va voir ça avec toi. Udinese et Salernitana, justement, un but partout. Tchaouna qui avait ouvert la marque pour la Salernitana. Camara qui a égalisé. Je vous conseille les deux buts, d'ailleurs, deux jolis buts lors
Oui.
de cette rencontre. Ensuite, on a aussi eu un Vérone-Sassuolo avec le succès 1 à 0 de l'Hellas Vérone. Swiderski, premier but en Serie A pour le joueur de l'Hellas et Sassuolo qui continue à s'enfoncer. Alors, c'était la première de Ballardini, puisque donc, eh bien, il a remplacé Bijica, qui a juste fait un intérim d'un match, le match en retard contre le Napoli qui s'est mal passé à 6-1, on l'a dit en début de podcast en parlant de Naples. Donc, voilà, Ballardini. Alors, il a une spécialité, puisqu'il n'a jamais commencé ou terminé une saison en Serie A, Ballardini. Il est toujours appelé en cours de saison, ou s'il commence la saison, il ne la finit pas. Enfin, c'est assez terrible. Parfois, il a sauvé des équipes. Ça nous a été le cas du Genoa par le passé, mais il a aussi connu la relégation, notamment avec Bologne en 2014 et la Cremonese en 2023. Donc voilà, on verra si Ballardini arrive à sauver Sassuolo. Voilà, c'est le classique pompier italien. Lui et Nicolas, c'est un petit peu les deux spécialistes. Donc, et puisque l'on parle de Nicolas, eh bien, l'Empoli s'est incliné après une bonne série. 12 points en 6 matchs depuis l'arrivée de Nicolas sur le banc des Toscans. Revers 1 à 0, but de Yankto, son premier but de la saison. Et petite stat, Cagliari, ça faisait 18 matchs sans victoire en Serie A à l'extérieur. Il fallait remonter au 27 février 2022 contre le Torino pour voir Cagliari s'imposer à l'extérieur en Serie A. Bon, il y a eu une saison de Serie B au milieu dans la série, mais bon, quand même, ça faisait pas mal de temps. Et à l'époque, juste pour vous dire que c'était Mazzarri, l'entraîneur de Cagliari. Voilà. Et il y a eu un but de Bellanova pour Cagliari contre le Toro, qui est son équipe actuelle. Voilà. Et puis on continue avec le bas du classement avec un Frosinone-Lecce, un but partout avec Khedira qui avait ouvert le score pour Frosinone, et puis un pénalty de Christovic, touché par le gardien Serafolini, qui avait arrêté le premier pénalty d'ailleurs, qui était retiré, changement de tireur de la part de Lecce, et donc Christovic qui a égalisé pour Lecce. Frosinone, compliqué, 2 points en 6 matchs pour les hommes de Di Francesco, et depuis le 26 novembre, il y a un succès 2-1 contre le Genoa, c'est même en 14 matchs seulement 6 points pris, une victoire, 3 nuls et 10 défaites. Donc je ne sais pas vous, alors je ne sais pas toi Nicolas, mais je commence à me dire. Justement, Frosinone, puisque c'est assez serré, on en parlait en privé, notamment avec Antonio Aiello, de Lecce qui est 13e, 25 points, à Cagliari qui est 18e, 23 points. Donc voilà, Lecce, Empoli, Udinese, Frosinone, Verona, Cagliari, tout ça se tient en seulement 2 points. trois points plus bas, il y a Sassuolo qui est un petit peu décroché, mais qui n'est qu'à trois points finalement du maintien. Donc là, c'est vraiment une lutte. En remontant sur les six, sept dernières saisons, c'est une lutte inédite, aussi serrée. Et surtout, ben voilà, on ne voit pas beaucoup d'équipes en forme. En fait, c'est peut-être les Hellas Vérone qui nous inquiètent le moins, alors qu'elle a fait un mercato lunaire en janvier en remplaçant quasiment deux tiers de l'effectif, avec pas mal de jeunes qui sont arrivés. Et encore une fois, il faut vraiment féliciter Baroni pour le travail qu'il effectue à l'Hellas Vérone. Mais voilà, cette lutte vraiment très, très indécise et voilà, avec quand même pas mal d'équipes un peu toutes malades au même moment, on a l'impression.
Ouais, Frosinone, je suis inquiet pas mal parce que c'est quand même la pire défense de Serie A, je crois, avec 56 buts encaissés. Donc c'est compliqué. C'était une des belles surprises du début de saison, mais là ils ont vraiment marqué le pas et il y a des fois où ils prennent vraiment des gros scores. Et pour autant, il y a de la qualité, donc ça va être quand même, je pense, une équipe qui peut se sauver, mais ça va être compliqué. Et l'équipe vraiment pour laquelle je m'inquiète, c'est Sassuolo. Parce que là, Berardi qui vient de se faire le tendon d'Achille, pareil, une défense très poreuse, des joueurs offensifs comme Lorienté ou Pinamonti qui ont beaucoup de mal. Vous l'avez dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, des joueurs qui n'ont pas été remplacés comme Fratesi, Raspadori devant Scamacca. C'est vrai que c'est compliqué pour le club de Sassuolo. Et je m'inquiète aussi pour l'Udinese qui n'a pas été capable de battre Salerne à domicile. Je vois sur les réseaux des supporters qui demandent le départ de Schioffi. Donc ça serait le troisième entraîneur pour l'Udinese si jamais les Pozzo en viennent encore à changer. Et malgré tout, c'est très serré, très compact et ça va être jusqu'au bout très compliqué pour savoir qui va sauver sa place.
Et on le voit, chaque week-end, il y aura des confrontations directes, et on le voit depuis pas mal de temps, c'est des confrontations directes très, très tendues, hein, où à chaque fois, c'est match nul, enfin, c'est très compliqué, puisque tu parles de Frosinone, effectivement, il y a eu changement de gardien hein, de la part de Di Francesco, qui a mis sur le banc Turati, qui, cette dernière semaine, était clairement moins réussite, après un excellent début de saison, il y a aussi Soulé, qui faisait un très, très bon début de saison, et qui est un petit peu dans le dur actuellement. Voilà, moi, je mets plutôt une pièce sur Frosinone pour le dernier poste, pareil, Sassuolo, je la sens mal. Bon, Salernitana 14 points, on n'en a pas parlé, mais voilà, ça semble terminé. Il risque encore de changer d'entraîneur pour la quatrième fois de la saison. Donc, je pense que pour Salerne, ça va être un retour
Oui,
en.
pour Salerne, je pense qu'on peut déjà dire qu'ils vont retourner en série B. Après, il y a encore 2 places pour, comme on l'a dit, plusieurs équipes et c'est là où va falloir être costaud mentalement.
Puis on va souhaiter, enfin, je devais souhaiter que Cagliari s'en sorte parce que Ranieri mérite. De continuer de ne pas terminer sa carrière d'entraîneur comme cela et puis avoir la Sardaigne en Serie A, c'est toujours sympa aussi. Ça fait un joli déplacement au soleil. Donc,
Ouais, voilà. Toi, tu prêches pour ta paroisse et t'as envie d'aller passer 2 jours à la plage.
entre Empoli, même si la Toscane est très jolie, entre Empoli et Cagliari, je choisis Cagliari comme c'est. Je vous le conseille vraiment, c'est une très très belle ville. En attendant que la Sicile peut-être revienne, notamment avec Palerme, pourquoi pas en Serie A. Voilà pour le bas de tableau.
Sa zappa in area di rigore all'indietro Fernandez Caprile poi Janto Jakub Janto e avanti Cagliari al minuto 69.
Antoine, pour terminer ce podcast, on voulait aussi ouvrir un petit chapitre un petit peu différent pour avoir ton regard sur la Serie A et le comparer un petit peu aux autres championnats, puisque tu commentes eh bien, la Ligue 1, tu participes aussi régulièrement à un podcast sur la Première Ligue, tu suis ce championnat, tu commentes des rencontres européennes. Donc, toi, quel est ton avis sur la Serie A et sur son niveau? Est-ce que tu trouves, comme on le dit parfois, qu'après avoir eu une période un petit peu de creux pendant les années 2010, elle est en train de revenir? Enfin, voilà, dis-nous un petit peu ce que tu penses du championnat italien.
Je suis d'accord avec ça et je trouve que le bon juge de paix de la santé d'un championnat, c'est les performances en Coupe d'Europe et notamment dans les deux petites, entre guillemets, Coupes d'Europe, parce que la Ligue des Champions, voilà, il y a des super puissances, il y a des super clubs qui sont là en permanence avec des moyens et des effectifs qui cachent un peu la forêt de leur championnat respectif. Et quand on voit ce que font les clubs italiens et notamment voilà cette saison, l'Italie est, je crois de mémoire, le seul pays qui a encore ses 7 représentants. Alors c'est forcément un peu particulier parce qu'on a la Ligue des Champions, on n'a fait que la moitié des huitièmes de finale, donc c'est un peu paradoxal, mais voilà, l'Italie a encore tous ses représentants. L'année dernière, il y avait des représentants italiens dans toutes les finales, les clubs italiens ont été très loin, et je trouve que c'est ça qui témoigne du fait que la Serie A se porte mieux que ce qu'elle a été il y a quelques années. Alors, c'est plus la domination des clubs italiens sur l'Europe comme on a pu l'avoir dans les années 80, 90 et une petite partie des années 2000 entre le Milan, l'Inter, notamment sur la Champions League. Mais je trouve vraiment que la Serie A a su faire un peu sa révolution aussi culturelle au niveau du jeu. Moi, je prends énormément de plaisir à commenter les matchs. Sur la qualité de jeu. Alors, de temps en temps, on a une petite brebis galeuse comme le Lazio Milan de vendredi, mais je trouve que globalement, on a quand même un niveau de jeu qui est très, très intéressant. Et puis, on a une densité de clubs qui jouent les premiers rôles avec du renouvellement. Cette année, c'est Bologne. Il y a eu l'Atalanta de Gasperini qui s'est vraiment installée, qui est arrivée voilà, un petit peu comme une surprise en 2016, mais qui, à partir du moment où elle s'est installée, ne quitte plus vraiment, on va dire, le top 6, top 7 de la Serie A, et met une vraie concurrence aux gros clubs historiques. On va dire qu'on attend toujours la Juve, les deux Milan, et puis les deux clubs romains. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je trouve que la Serie A, par rapport à la Première Ligue, qui pour moi aujourd'hui le meilleur championnat du monde, il y a encore un écart. Mais il y a aussi un écart financier qui fait que voilà, c'est compliqué de rattraper les Anglais. Mais par rapport à la Bundesliga, qui est pour moi un championnat tellement ouvert offensivement qu'il est difficile de le juger vraiment. Et par rapport à la Ligue 1 et la Liga, moi je mettrais la Serie A devant. Je trouve qu'il y a plus de qualité dans le jeu en Serie A qu'en Ligue 1. On a beaucoup plus de matchs fermés, de matchs qui sont assez tristes à commenter ou à analyser. Et puis la Liga, alors la Liga c'est un peu particulier parce que c'est vraiment un championnat que je suis très peu, donc je n'aurais pas un avis très objectif. Mais le peu de Liga que je vois me fait pas vraiment rêver, même si j'ai eu la chance de commenter un magnifique match cette saison entre Gironne et l'Atlético de Madrid. Mais voilà, moi je mettrais vraiment la Serie A. Alors peut-être que sur l'aspect technique, la Liga, il y a plus de joueurs de qualité, mais je maîtrise pas assez ce championnat pour avoir un vrai avis définitif. En tout cas, je trouve qu'on a on a une belle Serie A depuis 3 ans que je la commente avec vraiment une petite révolution culturelle où beaucoup d'équipes cherchent à jouer. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'Allegri et Mourinho sont des coachs qui sont remis en cause aujourd'hui, parce que on attend voilà d'avoir du jeu et de passer des bons moments en regardant les matchs. Et je trouve que c'est quand même plus souvent le cas que l'inverse quand on regarde les matchs italiens depuis 2-3 ans.
On n'en a pas parlé dans cet épisode puisque l'Inter joue ce lundi soir contre le Genoa, la possibilité de prendre 13 points d'avance en cas de match nul ou 15 points d'avance en cas de succès sur la Juve qui est deuxième. L'Inter qui se dirige vers son 20e Scudetto, synonyme de deuxième étoile. Simone Inzaghi, Antoine, justement, qu'est-ce que tu en penses? Tu parlais de renouvellement dans le jeu. C'est vrai qu'on n'est plus dans les clichés du jeu à l'italienne, dans pas mal d'équipes. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'Inter de Simone Inzaghi? Est-ce que ce sera, si cela se concrétise, puisque ce n'est pas encore fait, bien sûr, mais ce serait, on va parler au conditionnel, ce serait un beau champion.
Ah oui, un magnifique champion. Moi, je suis très, très impressionné par ce que montre l'Inter cette saison. Surtout quand on se rappelle que voilà, il y a un petit peu plus d'un an, après une première partie de saison très compliquée, Inzaghi était très contesté. Il a vraiment su fédérer l'équipe derrière lui. Il a trouvé la bonne formule, notamment avec ce milieu Çalhanoğlu en Regista, avec Barella et Mkhitaryan qui ont une énorme activité. L'Inter s'est pas trompé dans son recrutement. Donc moi, je trouve que voilà, l'Inter, un magnifique champion. Je te cache pas que mon cœur rossonero espère que le titre ne se fera pas le jour du derby. Je pense que ce serait l'humiliation ultime pour tous les supporters du Milan. Mais ouais, ce que fait l'Inter est
Bon,
remarquable.
après le 5-1, franchement, tu crois vraiment que vous êtes à une humiliation près?
Bah, si on peut éviter de s'en rajouter une de plus, il y a déjà eu la Super Coupe d'Italie l'année dernière, il y a eu la demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière, il y a eu le 5-1. Ça fait beaucoup quand même. Au bout d'un moment, la
Ouais,
Serie A,
justement, vous êtes habitué, ça passe crème maintenant.
mais alors Ibra est de retour aux affaires et les choses vont changer avec Zlatan. Non, blague à part, l'Inter est une magnifique équipe et moi je suis très très curieux de voir. Également ce que l'Inter va donner sur la scène européenne, parce que je pense qu'ils ont les armes pour pouvoir aller loin également dans cette Ligue des Champions, même si aller à l'Atlético de Madrid avec un seul but d'avance, faut toujours se méfier de Simone Inzaghi et
Et de
du
Simeone.
Cholo Simeone et de sa capacité à transcender son équipe les soirs de Coupe d'Europe.
Alors, ben Nicolas l'a un petit peu divulgué, c'était ma question suivante. Toi, tu as plutôt le cœur rouge et noir, Rossonero, lorsque l'on parle à football italien. Alors, pourquoi cet amour pour l'AC Milan?
Alors moi j'ai découvert le foot en regardant des VHS et notamment des compiles de buts d'un certain Marco Van Basten avec son beau maillot à rayures rouge et noir qui m'a du coup attiré l'œil et voilà je me suis intéressé au Milan de cette époque-là au Milan de Berlusconi voilà que j'ai suivi et puis après il y avait beaucoup de bons joueurs que j'aimais bien. J'ai suivi Weah parce que en tant que supporter du PSG, j'étais triste de voir Weah partir à Milan, mais du coup je l'ai suivi. Et voilà, Milan avait une belle équipe avec Weah. Derrière, il y a eu Shevchenko, il y a eu énormément de bons joueurs que j'ai aimés, qui m'ont fait m'intéresser à ce club de l'AC Milan que je suis. Alors je suis pas autant les résultats du Milan n'influent pas autant sur mon moral que ceux du PSG ou d'Arsenal. Mais ça reste, voilà, ça reste l'équipe italienne qui est la plus chère à mon cœur et que j'ai plaisir à voir gagner.
Et puis à l'époque, Antoine ne pouvait pas être pour la Juve parce qu'ils passaient leur temps à martyriser le PSG. Donc
Ah bah la demi-finale de 93 a été un traumatisme qui m'a fait pendant longtemps ne pas apprécier le talent de Roberto Baggio à sa juste valeur.
alors que Milan et PSG au final, Leonardo, Ibra, Thiago Silva, il y a aussi eu
Oui,
ces
et
liens-là
Lingen.
qui
C'est
sont
vrai.
qui ont nourri un petit peu aussi voilà, une certaine sûrement, affinité.
Et puis, voilà, j'ai mis du temps à comprendre que le Milan avait joué un rôle sur la prestation cataclysmique de Georges Weah en demi-finale de la Ligue des Champions 94-95. Je pense que si j'avais été un peu plus âgé à ce moment-là, j'aurais peut-être réagi différemment. Mais ouais, effectivement, il y a des passerelles entre le Milan et le Paris Saint-Germain mais effectivement moi c'est vrai que j'aime beaucoup le Milan et ce qu'il peut représenter donc je suis très content que le Milan soit de retour au premier plan après des années très difficiles.
Dernière petite question sur l'AC Milan, qui terminera sûrement deuxième ou troisième de Serie A. Tu les vois remporter la Ligue Europa ou pas? Puisque désormais, c'est devenu un objectif affiché. On le voit aussi dans la façon avec laquelle gère l'effectif Pioli là, depuis quelques semaines. On a vu que même le match retour contre Rennes, il ne l'a pas pris à la légère, en faisant une équipe quand même plutôt solide. C'était contre Monza, où il avait plutôt fait tourner. Donc voilà. Est-ce que pour toi, l'AC Milan, on le rappelle, c'est Liverpool et Bayer Leverkusen qui sont sûrement les deux principaux concurrents, on va dire, dans cette compétition.
Ouais, après c'est toujours compliqué. Hormis une équipe comme Manchester City ou le Real à l'époque Cristiano Ronaldo, je trouve ça toujours difficile de désigner des favoris en Coupe d'Europe. Milan fait partie des équipes les plus fortes sur le papier et dont on peut attendre effectivement qu'elle aille loin dans cette compétition. Mais les doubles confrontations européennes, ça peut être tellement aléatoire. Pour moi, Liverpool est la seule équipe que je mettrais comme favori dans cette Europa League, compte tenu du vécu, des moyens, de la qualité de l'effectif. Maintenant, comme ils ont une course au titre à jouer qui est très très dense avec Manchester City, est-ce qu'à un moment donné, Jurgen Klopp fera pas l'impasse sur un match d'Europa League? Je ne sais pas. Et pareil pour le Bayer Leverkusen qui est sur une lancée historique pour aller enfin remporter ce titre de championnat allemand. Donc, il y a peut-être un coup à jouer pour le Milan, mais il faut être régulier et c'est pas toujours la qualité première de l'équipe de Pioli cette saison. Donc, c'est aussi pour moi le Milan est un peu son pire ennemi, son plus grand adversaire cette saison. Donc, malheureusement, c'est pour ça que je mettrais un petit bémol quand même au fait de les voir aller jusqu'au bout en Europa League, même si j'en serais très heureux.
Pseudo tifosi, gente che vuole male al Siena. Gufi, state a casa!
Eh bien, on aura l'occasion, bien sûr, de suivre cela. Merci beaucoup, Antoine. On va se quitter en 2 minutes avec les pronostics de la prochaine journée de championnat, la 28e, qui commencera le vendredi 8 mars par un Napoli-Torino. Je vais vous demander d'ailleurs cette rencontre-là, match dès le vendredi, puisque le Napoli, ensuite le mardi suivant, Le 12 mars jouera le 8e de finale retour de Ligue des Champions à Barcelone. Alors, Naples-Torino, Antoine?
Victoire du Napoli. Je pense qu'ils vont continuer sur leur lancée. Ils sont bien là avec ce que fait Calzona. Et je pense que pour préparer le Barça, il n'y aura rien de mieux qu'une victoire face au Toro.
Nicolas?
Pareil, victoire du Napoli 2-0.
Je vous suis avec un succès, je vais dire 2-1. Ensuite, il y a d'autres rencontres. Il y aura 4 matchs le samedi 9 mars. Je vais vous demander, on en a parlé, il est forcément attendu ce match Bologne-Inter, samedi 18h. Donc l'Inter qui là aussi sera 4 jours de son 8e de finale retour de Ligue des Champions à Madrid le 13 mars. Antoine?
Eh ben, vu que je pense que Simone Inzaghi fera un peu tourner en vue de la Ligue des Champions et vu la forme actuelle de Bologne, je miserai sur un petit exploit des hommes de Thiago Motta avec un match nul, un deux partout, un peu comme à l'aller.
Nicolas?
Oui, pareil, match nul, mais plutôt un partout.
Ah, toi, tu veux pas que je commande des buts, toi?
Ouais, si, j'aimerais bien, mais je pense que ça va quand même être un match un peu plus fermé que le match aller. Là, ils ont été avertis la dernière fois l'Inter, donc ils vont pas faire tout le temps les mêmes erreurs.
Surtout que Bologne donc, a fait match nul 2-2 en championnat à San Siro. Bologne a éliminé l'Inter en Coupe d'Italie cette saison 2 après prolongation. Et surtout, les deux derniers matchs de l'Inter à Bologne, c'était deux défaites. Il y a le fameux 2-1 avec l'erreur de Radu, vous vous en souvenez,
Oui,
qui a pesé
qui a
dans la
coûté
course au
cher.
titre. Voilà, qui a pesé dans la course au titre.
Je l'ai commenté.
Moi, j'étais au stade, j'en fais encore des cauchemars de cette remise, de
J'imagine.
cette touche de Perisic. C'était terrible. Mais bon, même si avec le match nul, on pourra faire l'histoire, mais ça aurait pas changé grand-chose. Puis surtout, l'an dernier, il y a aussi eu un revers 1 à 0 de l'Inter à Bologne. Là aussi, un match cataclysmique, il pleuvait, il faisait 2 degrés. Enfin, bref,
Et
voilà.
j'annonce le but d'Arnautovic.
Ah oui, c'est vrai, le but de l'ex-ex. Arnautovic avait marqué d'ailleurs
Oui.
lors du 2-1. Enfin bref, qui avait bien exulté d'ailleurs. Je veux dire victoire de Bologne. Voilà, pour faire un 3 à la suite, je pense que peut-être que l'Inter. Si jamais l'Inter gagne ce lundi soir contre le Genoa, il y aura peut-être une petite décompression avant la Ligue des Champions. Et voilà, et puis Bologne qui est en grande forme. Parmi les matchs de dimanche, je vais vous demander eh bien, entre la Fiorentina et la Roma, puis ce sera le match de dimanche à 20h45, match entre deux équipes en lutte pour Ligue des Champions, Ligue Europa. Antoine?
Je mise sur la continuité de la belle forme de la Roma avec une belle victoire 3-1 contre la Fiorentina et encore Dybala buteur.
Nicolas, sachant que ce sont deux équipes qui joueront donc jeudi en Coupe d'Europe.
Ouais, mais la Fiorentina est en train de glisser tranquillement, mais sûrement, et tout le contraire de la Roma. Donc, pareil, je vois une victoire romaine 2-0.
Et d'ailleurs, on ne l'a pas signalé, puisque je vous le rappelle à peu près à chaque épisode, Vincenzo Italiano a aligné la même équipe pour la première fois après 142 matchs à changer d'équipe sous le banc de la Fiorentina. Il a enfin aligné la même équipe. Bon, ça avait fait 0-0 ce week-end, mais voilà, il a cassé cette série qui devenait clairement historique. Et puis allez, dernier match, parce que ça fait plaisir à Nicolas, on va quand même le faire. Lundi 11 mars, Lazio-Udinese. Antoine?
Eh bien, vu que la Lazio est pas dans une forme olympique, allez, on va miser sur une victoire de l'Udinese et qui était venu gagner à Milan, qui était allé gagner à Turin, alors pourquoi pas?
Nicolas?
Ouais, vu sous cet angle, effectivement, je peux partager l'optimisme d'Antoine, mais étant donné que je regarde les matchs et que je vois les prestations des joueurs, même avec des suspendus, je pense que ça va au mieux faire un match nul pour l'Udinese qui va continuer de s'enfoncer dans la crise et qui va avoir des difficultés jusqu'au bout de la saison.
Moi, de mon côté, ouais, j'ai quand même dire succès de la Lazio, même si sûrement le résultat à Munich en milieu de semaine conditionnera peut-être aussi ce match-là, puisque une qualification ou une élimination pourrait peser différemment sur les têtes. Mais voilà, je vois quand même la Lazio s'imposer 2-1, une réaction d'orgueil après ce qui s'est passé contre l'AC Milan. Ben voilà, on aura l'occasion d'y revenir dès la semaine prochaine. Alors, de ce match-là, non, puisque vous savez, on fait les podcasts le lundi, donc on n'a pas le match du lundi soir. Mais voilà, le prochain épisode qui sera présenté par Antoine Aiello, qui n'était pas là pour raison professionnelle, et on l'excuse et on embrasse Anto. Également, Raphaël Gauthier n'était pas là, mais il reviendra lui aussi la semaine prochaine. On embrasse nos deux amis Rossoneri, Nicolas. Ils nous ont manqué, mais voilà, je pense que.
Des gros baci pour nos deux amis Rossoneri qui ont été contents de la victoire et que je chambre régulièrement en privé sur le groupe, mais aujourd'hui je voudrais en profiter pour leur dire que je les adore malgré tout.
Et puis bon, il y avait Antoine, du coup, qui faisait le quota. Alors, c'est un héros aujourd'hui, donc voilà, c'était pas mal aussi. Merci beaucoup, Antoine Morin, d'avoir été avec nous, journaliste, commentateur. Vous pouvez retrouver sur Free pour les rencontres de Ligue 1. Vous pouvez aussi retrouver sur Sky Sport Suisse, si vous êtes eh bien, Suisse francophone, puisqu'on a des écoutes aussi bien en Suisse qu'en Belgique. On en profite pour saluer toutes les personnes qui nous écoutent aussi de l'étranger. On a pas mal d'écoutes aussi aux États-Unis. On a même quelques écoutes en Hongrie, par exemple. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça parfois. En Estonie, on a des écoutes
oui.
En Estonie, Nicolas.
Même en Inde, donc ouais. Comme quoi, vous permet de suivre le foot italien et on vous en remercie.
Mais merci beaucoup Antoine.
Merci à vous pour l'invitation, c'était génial.
Je voulais aussi en profiter en ce 4 mars, voilà, ça fait 6 ans que David Astori nous a quittés, donc voilà, c'est juste pour faire une petite pensée pour bien l'ancien défenseur de la Fiorentina, Nicolas.
Nous a quitté à Udine en plus.
Exactement, ça va un match, donc temps passe vite, mais voilà, toujours dans nos pensées David Astori. Et puis, ben nous, on se quitte avec un générique, du coup, comme on n'avait pas nos camarades de Los Angeles, c'est La queue du diable, La coda del diavolo, chanson de Ercomi, Mirko et Elodie, pour terminer cet épisode. Ciao, ciao. Pa, pa, la, 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 la.